Galileo, Galileo.
Bonjour à tous,
ici la Radio Galilée.
Aujourd'hui, pour vous présenter l'émission, il y a autour de cette table
Martin,
Eva,
Morgane
et Gwenel.
Nous nous retrouvons pour cette deuxième émission suite au succès interplanétaire de notre première émission. J'espère que vous êtes heureux de nous retrouver parce que nous, oui.
Pour cette seconde émission, Alice nous présentera les actualités du FSE et quelques-unes du lycée. Des élèves de première nous parleront de la minute de l'orientation. Puis, dans les petits reportages galiléens, nous irons au musée de la Résistance bretonne à Saint-Marcel. C'est Pamphile Ounsou, un slammer, qui nous offrira un instant musical. Pour continuer positivement, Neil nous parlera de son move écho sur l'eau. Avec ensuite un peu de culture avec critique de films et speedbooking. Nous finirons par nous poser la question « Qui suis-je ?» grâce à un texte écrit par Cyrine, une élève de seconde.
Et on vous souhaite à tous une bonne écoute de l'émission.
Sans plus attendre, nous démarrons avec les actus du lycée.
Bonjour Alice, on se retrouve aujourd'hui pour les actus FSE. Tout d'abord, nous allons donc parler des sucettes. Qu'est-ce que ça a donné ?
Alors, ça s'est très très bien vendu, on va en recommander parce qu'apparemment ça a eu un gros succès. On a fait pas mal de bénéfices du coup pour financer les projets du lycée. Donc ça va continuer, elles reviennent bientôt.
Pour les recettes de la tombola, qu'est-ce que ça a donné ? Les gagnants, tout ça ?
Alors ça s'est très bien passé, on a fait un peu de bénéfices, c'était bien. On a notamment Shana en première 2 qui a remporté le gros lot, donc les AirPods. Donc on était très contents, c'est quelqu'un qui s'est investi dans le lycée, donc ça fait très plaisir.
Très bien, et pour la photo de classe, on l'a faite récemment, maintenant on dit quoi ?
Alors à la vie scolaire, du moins à l'extérieur, vous pouvez aller chercher un petit bon pour commander en fait vos photos. Donc c'est 7€ les deux photos. Donc n'hésitez pas à le faire bientôt parce qu'on va bientôt les commander. Donc voilà, ne tardez pas trop.
Merci beaucoup Alice.
Merci, au revoir.
Et maintenant, quelques nouvelles de notre mini Big Forest lancé par le Club Echo. Comme le dit si bien Clint Eastwood...
Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses.
Eh ben nous, on a creusé. Et nous avons déjà planté plus d'une dizaine d'arbres et arbustes près des terrains de sport. Le printemps arrive et il reste de la place. N'hésitez pas à apporter au lycée, derrière le CDI, des boutures de vos jardins, des plantes couvre-sol, des arbustes, bref, toute plantation locale acclimatée à notre région. On compte sur vous.
Nous en profitons pour vous rappeler que du 3 au 7 avril aura lieu au lycée la semaine éco sur le thème des solidarités.
Et si maintenant, on parlait métier ?
Les premières quatre vous présentent
la minute de l'orientation.
Stressé de ne pas trouver un métier. Nous demander de trouver une idée de métier alors qu'on ne sait pas forcément où aller ou ce que nous aimons, c'est toujours un peu difficile. On a peur de faire le mauvais choix, on a peur de ne pas réussir, on peut avoir absolument aucune idée ou ne pas avoir une seule idée arrêtée. Dans tous les cas, nous savons d'une certaine manière ce que nous aimons. Quelle spécialité avons-nous choisi ou voulons-nous choisir peut déjà nous orienter vers quelques domaines. Aimer la maths ou le français peut déjà permettre de faire un choix assez rapide. En soi, le stress de trouver quoi faire plus tard est assez commun et normal, je dirais. En mon cas, je ne m'inquiète pas plus que ça, j'ai confiance en moi et en ce que je fais. Pour ne pas fermer des portes, il faut assurer des notes correctes partout. En fait, il faut mettre toutes les chances de notre côté, assurer des bonnes notes dans tous les domaines pour ne pas astronomiques, mais des notes correctes. On peut aussi regarder sur les réseaux Instagram par exemple, il y a plusieurs comptes qui peuvent nous permettre d'avoir des idées, ou encore aller à des portes ouvertes ou des forums. Franchement, il ne faut pas se mettre la pression, c'est normal à 16 ans, 15 ans, voire 18 ans de ne pas savoir où se diriger. La vie peut nous permettre d'avoir beaucoup de métiers et d'opportunités différentes. Le lycée, c'est fait pour ça, nous orienter et nous donner des idées de métiers. Effectivement, c'est assez stressant, mais pour vous aider, quelques élèves vous proposent sur Radio Galilée des idées de métiers.
Je vais vous présenter le métier d'animateur dans le service jeunesse. Cette profession consiste à garder des enfants, mais également à leur proposer diverses activités telles que la lecture, des jeux, des sports. Afin de travailler dans ce domaine, il faut passer le BAFA, le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur, mais également le BPJEPS, brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport. Le PVGEP, c'est un brevet professionnel se passant sur 2 ans. Il y correspond à un bac plus 2. Le salaire est d'environ 1 900 € brut par mois. Les horaires sont variables, car chaque journée sont différentes. De plus, ce métier permet de faire des déplacements, car il y a des colonies de vacances, des mini-camps, des sorties à la journée. Nous devons travailler en équipe, dans un bureau, mais également à l'extérieur. Cependant, il existe des risques, car il faut surveiller certaines activités, telles que la baignade. Le métier d'animateur au sein du service jeunesse est un métier polyvalent avec des horaires variés.
Je vais vous présenter le métier de paysagiste. En quoi consiste ce métier et quelles sont les activités principales? C'est un métier où l'on aménage, crée et on entretient les jardins. Nous sommes responsables du chantier. Il faut une certaine connaissance des plantes. C'est un métier où l'on est à l'extérieur par tout temps, à toutes les saisons. Et l'on bouge en permanence pour aller sur les chantiers et plein d'autres choses. Pour la recherche d'emploi, c'est un métier où il y a les débouchés et ils recherchent tout le temps et souvent des paysagistes. Quelles études pour devenir paysagiste? Après le bac, il y a le BTSA aménagement paysager qui peut se faire en 2 ans en apprentissage, qui est l'idéal pour apprendre le mieux sur le terrain.
Bonjour, je vais vous présenter le métier de sapeur-pompier de Paris. Les pompiers de Paris sont rattachés à l'armée de terre car ce sont des pompiers militaires. Donc c'est un métier qui est très physique et dur mentalement. L'une des qualités principales est l'empathie, mais il y a aussi l'esprit de corps, le dépassement de soi et la bienveillance. Je vais vous donner quelques chiffres. La proportion d'incendies est d'environ 8%, dont 80% de secours à victimes. Maintenant, la formation. La formation dure environ 4 mois pour apprendre la vie militaire, 15 jours au début de la formation, et toutes les techniques de sauvetage et d'extinction. Durant la formation, les instructeurs mettent à rude épreuve les candidats. Pour prétendre de rentrer en formation, il faut la nationalité française, le permis de conduire, une très bonne condition physique, le brevet des collèges, et avoir entre 18 et 25 ans. Faire l'école des JSP peut être un plus dans votre dossier. Le temps de travail est d'environ 72 heures semaine, et des fois d'affilée. Ce sont des gardes de 24 heures ou de 12 heures. Le salaire, pour un pompier qui vient de rentrer, est d'environ 2 000 € par mois. C'est un métier à risque où la devise est sauver ou périr.
Merci à tous de nous avoir écoutés sur Radio Galilée. Nous passons la main à d'autres élèves. Au revoir.
C'était
la minute de l'orientation.
Merci d'avoir partagé avec nous vos recherches et vos conseils. Maintenant, partons en Bretagne avec nos petits reportages galiléens au musée de Saint-Marcel.
Bonjour, je suis Étienne.
Moi c'est Ewen.
Moi c'est Aglaé.
Moi c'est Léo.
Et nous sommes partis à Saint-Marcel visiter le musée de la Résistance avec les Secondistes. Le village de Saint-Marcel fut en 1944 en Bretagne l'un des hauts lieux de la Résistance française.
Pendant cette journée, vous avez pu voir qu'est-ce qu'est la Résistance avec une vidéo présentée par une historienne. Elle a pu nous faire découvrir ce qu'était la Résistance et tous les types de propagande qui étaient mises en place lors de la Seconde Guerre mondiale.
On a aussi visité le musée, ce qui explique comment vivaient les résistants pendant la Seconde Guerre mondiale en Bretagne.
Quand on a visité le musée, c'était libre. On pouvait aller où on voulait, mais on ne devait pas toucher. Parce que c'était des vrais objets qui ont été utilisés pendant la Seconde Guerre mondiale, du coup.
J'adore. Puis confirmé le 5 juin après 21h pour prévenir la résistance bretonne de l'imminence du débarquement.
Ah, c'est le débarquement des Anglais.
Non.
Ah non, si. Ah si, c'est les Anglais, du coup.
Il y a des motos, il y a... Il y a que des véhicules de guerre de l'époque.
J'ai pas le mot, désolé, mais je trouve ça, c'est un peu, bah il y a une plus grosse atmosphère que dans les autres pièces où c'est juste des éléments exposés, quoi. C'est plus immersif, voilà, c'est ce qu'on cherchait.
Moi j'ai bien aimé tout ce qui est plutôt voiture, uniforme, les armes, parce que je trouve ça intéressant parce que c'est des choses qui ont été utilisées.
En gros on a appris beaucoup de choses. Et surtout sur les rations aussi, il nous a détaillé plein de détails. Enfin, il y a eu beaucoup d'explications qu'on a bien aimées.
Moi, ce qui m'a surpris, c'était la taille des tanks qui est dans l'exposition là-bas et tous les véhicules. L'hygiène des poilus aussi, parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Et puis là, il y avait genre rasoir, des shampoings, des trucs pour se brosser les dents.
Le courage des soldats qui vont au front,
alors qu'ils pourraient très bien être dans leur chambre, dans leur maison, à attendre que cette guerre se finisse, mais ils décident de tout faire pour que la France redevienne libre de l'occupation des Allemands, comme les Alexis Le Gall et son frère, qui décident de partir voir De Gaulle en Angleterre pour le rejoindre, pour battre ces Allemands et retrouver la France libre.
Les tenues, on peut comprendre comment les gens ils étaient habillés, c'était pas comme des photos où on pouvait pas voir comment le tissu était fait. On peut voir comment les casques ils étaient faits, ils étaient tous sur une seule taille, donc si t'avais une petite tête, c'était plus dangereux pour notre protection, etc.
J'ai lu une affiche de propagande pour les enfants et la violence des mots était assez importante quand il disait qu'après tous les messages d'amour et les dessins qu'il avait reçus des enfants au Noël dernier, il fallait que tout le monde soit au courant que les enfants étaient avec eux et je trouvais ça un peu violent parce que les enfants ils ont rien à voir là-dedans, il faut juste les laisser à l'écart et les laisser vivre leur vie et grandir comme ils sont.
C'était très immersif parce qu'on a pu voir aussi des écrans qui nous montraient comment étaient faits tous les véhicules, tous les armements et qui expliquaient aussi comment étaient construits les bâtiments et pourquoi les bâtiments avaient été détruits par les soldats allemands.
C'est un travail qu'on a commencé à NMC sur les chemins de la liberté. Nous avons d'ailleurs réalisé une exposition sur les auteurs en guerre, sur les écrivains en guerre.
Merci aux élèves de seconde 6 et seconde 7 qui ont participé à ce reportage.
C'était les petits reportages galiléens. À la prochaine!
Toujours dans la tribu avec les élèves du lycée Galilée de Guérande.
Au programme maintenant, nous partageons avec vous la musique, les mots, la poésie du slameur Pamphile. L'équipe radio l'a rencontré le 15 décembre dernier au spot de Guérande. L'occasion de découvrir la langue des oiseaux et de travailler notre voix. Une expérience chaleureuse, enrichissante et un beau moment de partage.
Voici un extrait de la chanson « La mélodie du silence » tirée de l'album « L'amour est une arme » où Pamphile chante avec son groupe BSF.
Ni de richesse, c'est le berceau de l'homme avec un grand H. La terre mère, son histoire, sa tristesse, inscrit, ancré dans nos mémoires flash. La terre mère, ni de richesse, c'est le berceau de l'homme avec un grand H. La terre mère, son histoire, sa tristesse, inscrit, ancré dans nos mémoires flash.
Encore merci à Pamphile et au Spot pour cette belle rencontre. Nous rappelons que le Spot 1525 est partenaire du lycée. Ils viennent régulièrement exposer au forum le midi et vous rencontrer autour de thématiques chères aux jeunes. Le spot est aussi un chouette lieu qui vous accueille et où l'on vous accompagne dans vos projets. Il est situé juste en face d'Atanor.
Les corps tombent, les corps tremblent, le sang gicle, les corps gisent, âme brisée, les nerfs lâchent, vision sombre en plein jour, mort violente, femme violée, les galères calcées, serrées, compressées à max, en sang, en train de ramer vers un autre univers, cri de rage, douleur, regard fixe, grand ouvert, ce mal ressenti dans mes racines, mes ancêtres enchaînés, affamés, solitaires dans le mal-être, solitaire, isolé, arraché à sa terre, Jackson Wilson, un nouveau nom, plus de repère, les injures, les crachats, les morsures du bleu diable, en déson, épuché, l'âme verte. C'est pour l'au-delà, la souffrance silencieuse. Oui, chaque soir, c'est le bal de la faucheuse. Afrique du Sud, Dahomey, port de non-retour à Gorée. Ma plume crise, peur de langue, je suis fier d'être fils immigré.
Je me souviens du sang, des larmes, du chant, des armes. Je me souviens du temps, des armes, du vent, des rames. Je me souviens de châtiments, oh, de bains de sang, oui, oh, oh, oh. Africa yo, Africa yo yo yo, mama yeah.
Et tout de suite, place au Mouveco de Nil.
L'eau,
la source de la vie. Formidable ressource naturelle dont aucun être vivant ne peut se passer, est pourtant en train de devenir rare, précieuse et à utiliser avec parcimonie. Bonjour à tous et bienvenue dans le Mouv'éco. Aujourd'hui, je vais aborder avec vous la question de l'eau. En effet, comment celle-ci, présente en abondance depuis des millions d'années sur notre Terre, a-t-elle pu devenir une ressource dont il semble que nous devrons bientôt compter les gouttes avant de l'utiliser ? Une seule réponse, les activités anthropiques. De nos jours, en France, seulement 17% de l'eau douce prélevée est destinée à faire de l'eau potable et 9% pour l'agriculture. Tandis que 16% est utilisé pour alimenter les canaux de navigation, 8% pour les industries, mais surtout 50% de cette eau potable sert à refroidir les centrales électriques, nucléaires notamment. On peut donc estimer que la consommation d'eau des hommes a augmenté d'environ 384% depuis la révolution industrielle au 19e siècle en France. Si bien qu'en 2017, la consommation moyenne journalière d'un Français était de 146 litres. Car ce sont les habitants des pays riches qui surconsomment, voire se permettent de gâcher l'eau. En effet, les plus gros consommateurs mondiaux sont les États-Unis, le Canada, le Japon, l'Australie et la Suisse, tous à plus de 250 litres journaliers par habitant. Tandis que dans la plupart des pays d'Asie et d'Amérique latine, les gens vivent avec moins de 100 litres d'eau par jour en moyenne, et dans les pays d'Afrique subsaharienne, avec moins de 20 litres, d'après une source Eurostat. En effet, les pays riches ont de l'eau présente en quantité sur leur territoire ou ont les moyens de s'en procurer, alors que les pays pauvres n'en ont souvent que peu et n'ont les moyens ni de l'extraire ni d'en importer. Cependant, même dans les pays qui possèdent de l'eau, on assiste à un inquiétant épuisement des nappes phréatiques à cause des mauvaises pratiques humaines. Réchauffement climatique, imperméabilisation des sols autrefois fertiles qui deviennent arides à cause des pesticides, pollution en profondeur et dans les rivières, surconsommation d'eau pour l'agriculture et surtout l'élevage, car un seul steak de bœuf nécessite 20 litres d'eau à lui tout seul pour arriver dans notre assiette. Il est donc absolument vital de changer rapidement nos pratiques, car notre surconsommation d'eau d'aujourd'hui, liée à une abondance de plus en plus factice, est ce qui va tous nous mettre face à face avec une grave crise demain. C'est pourquoi, dans le défi d'aujourd'hui, je vous propose d'essayer de vivre avec la même quantité d'eau moyenne qu'un habitant d'Afrique subsaharienne, c'est-à-dire avec un maximum de 20 litres par jour, pendant une semaine. Rien d'impossible à cela. Sans changer la quantité d'eau que vous buvez, environ 2 litres par jour, je vous propose de ne vous laver que 2 à 3 fois maximum dans la semaine, au mieux au gant de toilette, ou sinon en ne faisant couler l'eau avec un débit très faible pendant moins de 2 minutes cumulées. Se débrouiller pour tirer la chasse aux toilettes le moins possible dans la journée, car une chasse d'eau moyenne consomme entre 3 et 6 litres, pour les plus modernes. De plus, pour réussir ce défi, il faut être très économe dans l'utilisation de l'eau de cuisson et de vaisselle, en essayant de réduire la quantité et de réutiliser au maximum la première pour la deuxième. Enfin, faites attention à ce que vous mangez. Essayez par exemple de faire moins de repas avec viande dans la semaine, en évitant particulièrement les viandes bovines, steaks, entrecôtes, etc. En tout cas, renseignez-vous bien pour voir où est-ce que vous pouvez faire des économies en eau. C'est quelque chose de très important pour le futur, auquel il faut penser dès maintenant. Je sais que ce n'est pas facile pour moi-même essayer de mettre ces choses en place dans mon quotidien depuis longtemps, car il faut y penser continuellement. Mais c'est tout à fait possible. C'est pourquoi je vous propose de le tester une semaine de votre côté. Je vais donc vous dire bonne chance pour votre défi, et n'oubliez pas que ce sont les petites gouttes d'eau qui éteignent les grands incendies. Salut !
Merci Neil pour ces idées inspirantes. Sur ce, nous poursuivrons avec une rubrique plus culturelle. Pour commencer, parlons cinéma avec un coup de cœur récent.
Bonjour à tous, je vais vous présenter la rubrique cinéma avec mon coup de cœur et une recommandation de film qui sortira dans l'année. Tout d'abord, le coup de cœur, avec le film Babylone réalisé par Damien Chazelle, sorti fin décembre. Ce film parle du début du cinéma, avec la vie des acteurs au fil des innovations cinématographiques comme l'apparition du son. On suit des personnages hauts en couleur, avec leurs émotions douces et amères face à des événements loufoques et improbables. Le tout accompagné d'une superbe musique.
Ensuite, la recommandation de film, avec le film Oppenheimer, qui sortira le 19 juillet. Il est réalisé par Christopher Nolan, qui est aussi connu pour Inception et Interstellar. Cette fois, il s'attaque à un biopic sur le père de la bombe atomique, avec comme acteurs Robert Downey Jr., Matt Damon et Cillian Murphy.
Pas facile pour les secondes 2. Suite à la lecture d'un livre de leur choix, ils ont dû participer à un speedbooking. C'est-à-dire qu'ils avaient 2 minutes, à l'oral, pour convaincre leurs camarades d'emprunter leur coup de cœur. Voici un aperçu de leur lecture.
Salut, c'est Mathieu, bienvenue sur Radio Galilée. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon livre sur le Congo. Alors, moi, mon livre, il raconte l'histoire de Alain Mabankou, un auteur congolais qui, après 20 ans, décide de retourner au Congo, Kinshasa, dans son pays d'origine, à Pointe-Noire, un petit village au bord de mer. Et ça fait très longtemps qu'il était pas retourné dans son pays. Il a même loupé le deuil de sa mère, parce que sa famille lui demandait de l'argent et du coup il a décidé de rester en France. Et du coup j'ai adoré ce livre parce qu'il parle de ses souvenirs et du changement de Pointe-Noire. Et c'est très drôle et c'est bien. Le titre c'est « Lumière sur Pointe-Noire » de Alain Mabankou.
Bonjour, moi je vais vous parler de Nos étoiles contraires qui a été écrit par John Green qui est américain et qui a donc été édité en 2013 en France. C'est l'histoire d'une jeune fille qui a 16 ans qui s'appelle Hazel et qui est atteinte d'un cancer. Son traitement semble avoir stoppé ou du moins ralenti l'avancée de celui-ci. Mais malgré tout, elle est condamnée et elle vit donc avec une assistance respiratoire, jour et nuit. Un jour, dans son groupe de soutien pour enfants malades, elle va faire la rencontre d'Augustus Peters, qui est un jeune homme en rémission. Donc ils vont commencer à se connaître et partager vite un intérêt pour l'humour et un goût pour la littérature. Ils vont vite tomber amoureux, et malgré le fait que Hazel elle soit pas trop pour parce qu'elle se sait condamnée et qu'elle ne pourra pas vivre une vraie histoire d'amour pendant longtemps, elle va quand même accepter et ça va les entraîner dans un projet un petit peu fou et plein de vie. Personnellement, moi j'ai trouvé que c'était plutôt une histoire assez drôle, parce que même si ça parle de sujets assez touchants, tristes parfois et durs, il y a quand même de l'humour, parfois même de l'autodérision. Ça allège le ton de l'histoire. C'est aussi donc très touchant car c'est une histoire qui pourrait arriver à vous, à moi, à votre entourage, mais aussi triste parce qu'il y a des moments qui sont plus durs que d'autres dans la rémission d'un cancer ou dans le cancer lui-même, le regard des autres, etc.
Merci à vous pour vos conseils. On espère que cela vous inspirera pour vos prochaines lectures et visionnages.
Qui suis-je ? Telle est la question. En tout cas, celle que va se poser Cyrine, à qui je laisse la parole à présent.
Qui suis-je ? C'est une excellente question. En réalité, je ne suis absolument personne. Je n'ai aucune trace d'originalité. Pas le moindre caractère. Aucun sentiment. Je ne ressens vraiment rien pour personne. Je n'aime personne, mais je ne déteste personne non plus. Je ne songe jamais à rien. Quoi que je dise, quoi que je fasse, rien ne me vient jamais à l'esprit. Je ne sais pas qui je suis. Je ne suis qu'un morceau de vide perdu dans un corps humain. Une âme errante, une entité à la recherche d'une raison de vivre. Cette idée ne me fait rien du tout. Je ne suis personne. Un être dépourvu de sentiments, de pensées, d'opinions et d'imagination ne peut pas prétendre être quelqu'un. C'est un peu comme si je n'existais pas. Pourtant, il me semble bien que j'existe, je n'en sais rien. Cela n'a aucune importance. Le monde entier se dit être quelqu'un. Mais finalement, qu'est-ce que cela signifie? Je ne pense pas être capable de répondre à cette question. Pour moi, personne ne peut être quelqu'un s'il n'est personne. Cela ne me déplaît pas du tout, car pour être quelqu'un, il faut apparemment savoir qui sont les autres. Mais pour moi, ces autres n'existent pas non plus. Nous ne sommes qu'une multitude de morceaux de vide logés dans une multitude de corps empruntés. Nous devons voir la réalité en face, une réalité qui n'existe pas. Cette vision de l'univers peut sembler étrange, horrible ou cruelle pour certains, mais pour moi, elle est absolument magnifique. Finalement, qui suis-je ?
Eh bien merci beaucoup Cyrine pour ces belles réflexions. Monsieur Testard, à vous la suite.
Eh bien voilà, c'était le mot de la fin.
Merci à tous de nous avoir écoutés, on espère que cette émission vous aura plu. On se retrouve à la prochaine!
Petite pensée à nos terminales pour leur révision de spécialité, bonne chance!
Bon courage pour les épreuves! et vive le printemps! Il ne reste plus qu'à vous dire
au revoir!
Galileo! Galileo!